Voici donc mon laïus de novembre, qui a trait au XVe siècle, qui a trait au cœur du XVe siècle, un siècle encore de transition. Ce siècle fut une route vers ce qui est appelé la Renaissance et qui fut en réalité un retour en arrière, comme avec un goût de plus en plus prononcé pour le paganisme. Nous en subissons encore les conséquences. Le grand schisme prit fin en 1417 avec Martin V. Bien que devenu le pape unique, il eut quelque peine à rétablir son autorité, notamment dans une Italie déchirée entre de multiples principautés. Naples, Florence, Sienne, Pérouse, Milan, Turin, Venise, pour ne citer que les principales. Martin V fut à l'origine du traité d'Arras qui rétablit l'alliance entre la France et le duc de Bourgogne. Il était meurtri par les guerres russites qui ravageaient la Bohême, la Moravie et la Silésie. Il assista tristement à l'effondrement du royaume de France, réduit au domaine du roi de Bourges, après le couronnement à Paris du roi anglais Henri V en 1422. L'université de Paris était aux mains des Anglais. Pierre Cochon, évêque de Beauvais, en fut une preuve lors du procès de Jeanne d'Arc. Pour sortir de la guerre contre les Hussites, un concordat fut organisé à Prague et signé au Concile de Bâle. Il portait sur 4 points. Premièrement, la communion sous les deux espèces, qui était la seule valable pour les Hussites. Elle restait autorisée, mais il est demandé aux Hussites de professer un acte de foi affirmant la présence intégrale de Jésus-Christ sous chacune des deux espèces. Deuxièmement, les Hussites réclamaient le droit pour l'Église de punir directement, sans l'intervention du bras séculier, et cela, le Concile déclara, en disant que le châtiment ne devait être appliqué qu'après l'intervention d'un tribunal civil. C'est tous les problèmes d'inquisition. Troisièmement, les Hussites demandaient le droit pour tout prêtre de prêcher indépendamment de toute mission épiscopale. Ça, c'est très important. Le Concile de Bâle arrêta qu'un prêtre ne peut prêcher sans en avoir reçu la mission de son évêque. Actuellement, les diacres peuvent prêcher, mais dans certaines églises, on disait que n'importe quel fidèle pouvait prêcher, ce n'est pas le cas. Le prêtre prêche au nom de l'évêque de Jésus-Christ. C'est ainsi que Saint Bernardin de Sienne et Fénelon ont accepté d'arrêter de prêcher. L'indépendance d'esprit prônée par les Hussites détruit l'Église. Celui qui veut rester prêtre doit obéir. Quatrièmement, le clergé ne doit rien posséder, disaient les Hussites. Le Concile de Bâle précise que la possession par le clergé n'est pas illégitime, mais que les bénéfices ecclésiastiques doivent être remis en des mains honnêtes et pieuses pour le bien des pauvres et de l'intérêt commun. Le bien commun, une notion bien loin des débats actuels. Voilà. La dernière encyclique du pape en parle. Le successeur de Martin V fut un moine qui prit le nom d'Eugène IV. Il régna de 1431 à 1447. Il était très pieux, très austère et très tenace. Formé de quelques prêtres, surtout locaux, le Concile de Bâle chercha aussi à établir une autorité hostile au souverain pontife, allant jusqu'à nommer un antipape en 1391, Félix V, qui après avoir déposé Eugène IV. En conséquence, le véritable concile fut transféré à Ferrare en 1438, puis à Florence, où il siégea de 1439 à 1442, et enfin à Rome, où il se termina en 1445. Tout cela est bien compliqué. La révolte des cardinaux vis-à-vis des papes est toujours très ennuyée. Ce concile de Rome, par conséquent le vrai, proclama la suprématie du pape en matière dogmatique. Le Concile Vatican I, qui proclama l'infaillibilité pontificale en 1870, replie plusieurs des expressions de ce Concile de Rome. Entre-temps, le pape, devant la colère des Romains, s'était réfugié à Bologne, mais pas en Avignon, pour finir ce concile. Eugène IV ont aussi discuté avec les Grecs. Les Grecs refusant d'aller à Bâle, le pape les convoqua à Ferrare et conclut un accord complet, en particulier sur 3 points. Des Grecs, c'est-à-dire les orthodoxes. Premièrement, le purgatoire, défini comme un simple lieu d'expiation, sans en précipiter le mode. On discutait s'il y avait du feu ou pas, sans corps, tout ça est bien symbolique. Le filioque, défini comme une simple explication de la doctrine et non comme une nouveauté ou un ajout. C'est important. Le filioque est une explication de la doctrine, mais pas un ajout à la doctrine. les Grecs étaient libres de l'ajouter ou non à leur credo. Pour les théologiens, Dieu et le Fils ne sont pas une cause instrumentale, mais une cause agissante. Ça, la théologie pure dépassait la théologie byzantine, la théologie latine, pardon, dépassait la byzantine en subtilité. Troisièmement, faut-il, comme le faisaient les Grecs, ajouter d'autres paroles à celles de la consécration pour la chair et le sang, que la chair et le sang arrivent à une identification morale aussi complète que possible entre celui qui donne et celui qui reçoit. Non que l'âme qui le reçoit vive de l'essence, ou bien pour que l'âme qui le reçoit vive de l'essence du sacrement qui est le don de soi-même. De fait, les latins font une prière analogue dès l'offertoire. Ce point ne fut pas inséré dans le déchet pour ne pas faire aux Grecs l'injure de supposer leur manque de foi dans ce mystère. Entre-temps, le concile dut se transporter à Florence en raison de la cherté des vivres. Il fut reçu par Côme de Médicis, prince amateur de lettres, négociant et banquier. Il disait les envelopper dans un fil d'or, espérant avoir le bon Dieu comme débiteur. L'union s'acheva donc entre les Grecs quand on reconnut valide le pain azyme et le pain fermenté. Les discussions de Grecs et Latins avaient été sérieuses, les théologiens latins avaient été supérieurs aux théologiens grecs. Malheureusement, cette union ne dura pas. Elle fut rejetée par une grande partie du peuple grec, et puis il y eut la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, ce qui mit fin à la suprématie du patriarcat de Constantinople. Dieu veuille que notre siècle voit enfin l'achèvement de cette dispute fratricide qui nous fit tant de mal. Il est certain que les papes actuels se rapprochent beaucoup des orthodoxes, ce qui est un grand bien. Si les précédents conciles avaient rétabli la papauté dans la prééminence spirituelle, c'était toujours sous la surveillance des assemblées œcuméniques, c'est-à-dire générales, périodiquement et automatiquement réunies. Or, l'université de Paris avec l'illustre théologien dont le célèbre Gerson inspirèrent plusieurs décisions. La victoire des Armagnacs devait faire prévaloir leur gallicanisme, l'existence d'une église nationale, certes respectueuse du Saint-Siège, mais soucieux de son indépendance en ce qui concerne sa vie intérieure. Soit dit en passant, la perception et la distribution des diverses redevances liées à l'Église étaient bien dans le problème. Le souci d'argent se glisse partout. Les prélats français avaient fourni le plus gros contingent des conciles qui avaient déposé Eugène IV et nommé l'antipape Félix V. Le prince Amédée de Savoie, un conseil royal de théologiens publié le 7 juillet 1438, la pragmatique sanction de Bourges, une véritable charte du gallicanisme dont le préambule est un violent réquisitoire contre les abus de l'autorité, qui, sans les nommer, est bien celle du Saint-Siège, était bien celle du Saint-Siège dans leur esprit. C'est du Luther avant la lettre. La pragmatique sanction préconise la prééminence des conciles œcuméniques en matière de discipline, une obligation de réunir tous les 10 ans à l'Église de France où se trouvait l'obligation de se réunir tous les ans, tous les 10 ans. L'Église de France se trouvait soustraite à l'obédience pontificale, mais restait soumise à l'obédience royale. Charles VII acquit le silence de Eugène IV sur ce texte en refusant de soutenir Félix V. Ayant le soin du Saint-Siège pour sa politique italienne, Louis XI abolit cette pragmatique sanction. Il l'abolit en 1460, en lui substituant le concordat d'Amboise, mais menaçant sans cesse de le remettre en vigueur. Il se rapproche encore du pape peu avant la mort dont il avait grand peur. Louis XI avait une grande peur de la mort. Mais le gallicanisme ne disparut jamais complètement, on le constate encore aujourd'hui. Il y a une église gallicane. Nicolas V, élu en 1447 à la mort d'Eugène IV, était un homme d'une grande bonté qui parvint à faire l'unité de l'Église en 1449 et qui mourut de désespoir à la suite de la prise de Constantinople en 1453. Il tenta de raviver la croisade, mais sans résultat. Seule Venise continue à lutter contre les Turcs, mais surtout pour des motifs commerciaux. Par ailleurs, Nicolas V fonda la bibliothèque du Vatican. Il rassembla beaucoup de savants et d'experts dans les diverses langues orientales. Il connut le début de ce que l'on appelait la Renaissance, avec un véritable culte rendu à Platon et à l'Antiquité gréco-latine dans toutes ses formes. Son successeur, Calixte III, Alphonse Borgia, qui succéda à Nicolas V, fit preuve d'un népotisme exacerbé. Il fit cardinal un neveu indigne, Rodrigue Borgia, qui devint pape en 1492 et laissa avec sa famille un souvenir de scandale qui continue à faire la joie de ceux qui cherchent à salir l'Église. Le successeur de Calixte III, Alphonse Borgia, fit preuve d'un népotisme exacerbé, oui. Le successeur de Calixte III fut Pie II, 1458-1464, qui renforça l'unité de l'Église. C'était un grand orateur, savant helléniste, d'une extrême bonté. Une de ses phrases favorites était « La bonté et la prière, voilà toute la science de la vie ». Il fit tout pour lancer une croisade, mais bien peu répondirent. Il mourut à Ancône après avoir attendu longtemps la flotte vénitienne. En la voyant enfin, il dit « Tout à l'heure, c'était la flotte qui manquait au pontife, mais maintenant, c'est le pontife qui va manquer à la flotte ». Il mourut peu après, mais la flotte ne partit jamais d'Ancône. Après la mort de Pie II, le conclave quitta Ancône pour Rome. Les cardinaux étaient 48. Il élit l'un des plus jeunes d'une noble famille vénitienne vivant dans un palais magnifique. Ce jeune cardinal voulait prendre le nom de Formose, un nom bien singulier. Devant les réticences de ses pairs, il avait pensé à Marc, mais on lui a répondu que cela sentait un peu trop Venise. Il prit alors le nom de Paul II. Il avait le goût de la magnificence, pensant qu'elle frappait le peuple, l'invitant au respect. Il voulut une tiare magnifique, ornée de diamants. Il était toutefois toujours prêt à rendre service et avait une âme compatissante. Il avait tendance à dormir le jour et à travailler la nuit. Tout cela finit par engendrer une impopularité dont il n'avait cure, mais qui excita les cardinaux qui n'avaient l'autorité que pendant les vacances du Saint-Siège. Le plus grand souci de Paul II était la situation du christianisme en Orient. Les Turcs progressaient en envahissant l'Europe, mettant même un pied en Italie en prenant Otrante. Il y eut quelques réactions comme celle des Skandenberg en Transylvanie qui freina les Turcs dans les Balkans. Mais la situation en Italie était des plus confuses. On vit même le roi de Naples, Fernand d'Aragon, accepter l'aide des Turcs et leur argent, l'aide de Mahomet II devenu son allié, afin d'empêcher un rapprochement entre Florence et Milan. Cela dit, si Paul II avait une grande austérité de vie, il était toujours prêt à rendre service, malgré son goût pour la magnificence. Certains l'ont appelé le mari compatissant. D'autres, des cardinaux, avaient souscrit une convention selon laquelle celui qui serait élu pape ne prendrait aucune décision importante sans l'avis des cardinaux. Mais Paul II refusa d'en reconnaître la validité. Le pontificat de Paul II vit renaître un attachement à la littérature païenne, une marque de la Renaissance contre laquelle il lutta, mais pas toujours avec succès. Nous reverrons cela la prochaine fois.